L'esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que la semaine prochaine, nous serons en public et en direct, donc le dimanche 13 mars, à la Maison de la Radio et que vous pouvez vous inscrire tout simplement sur le site maisondelaradio.fr. Nous allons donc nous efforcer d'éclairer quelques éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Jean-Louis Bourlange, essayiste, et Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à l'état du monde agricole en France. L'été dernier, de nombreuses actions coup de poing ont été menées par des agriculteurs, principalement en Bretagne, pour alerter les pouvoirs publics sur leurs conditions de travail et sur la fermeture d'un quart des exploitations agricoles en une dizaine d'années, notamment à cause du surendettement. Les fonds d'un plan d'urgence de 500 millions d'euros adopté en septembre par la Commission européenne pour aider les producteurs de lait et les éleveurs de porc ont déjà été entièrement dépensés. Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture, a reconnu, je cite, que la crise est plus grave, plus profonde que nous ne le pensions il y a 6 mois. Les manifestations ont repris depuis le début 2016. La politique agricole commune de l'Union européenne, la PAC, conçue dès le traité de Rome, est au centre des débats. Elle représente près de 40% des dépenses européennes et des pays comme l'Allemagne militent pour revoir cette part à la baisse. En 2013, la fin des quotas laitiers qui permettaient de réguler la production a été suivie d'une forte augmentation de cette production destinée à compenser l'effondrement des prix. Elle a provoqué une saturation du marché. En un an, la collecte de lait a augmenté de 5%, alors que dans le même temps, la consommation et les exportations diminuaient, notamment vers la Chine et la Russie, laquelle a décrété un embargo contre les produits européens il y a 2 ans. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé à l'Assemblée nationale mi-février une baisse de 7 points des cotisations sociales pour tous les agriculteurs, ainsi qu'une année blanche sociale pour ceux qui n'ont pas réussi à gagner de l'argent en 2015. Au sortir des négociations avec les distributeurs, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a annoncé qu'un compromis avait été trouvé pour mettre fin à la spirale de la baisse des prix du lait. Moins enthousiaste, la FNSEA décrit la situation, je cite, comme un renvoi de balles permanent entre les grandes enseignes d'un côté, les transformateurs de l'autre, avec le paysan faisant le ping-pong entre les deux. Le Salon de l'agriculture ferme ses portes ce soir à Paris. Il a été pour de nombreux exposants l'occasion de manifester leur mécontentement à l'égard du gouvernement en huant François Hollande, là où Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen ont été accueillis beaucoup plus chaleureusement en proposant des baisses de charges et une réduction des normes. Au Conseil des ministres du 14 mars, le commissaire européen à l'agriculture fera des propositions concrètes pour stopper l'excédent d'offres, selon Stéphane Le Foll. Sur cette question, Nicole Niesotto.
Alors, c'est une crise extrêmement dramatique, extrêmement complexe, qui a des implications bien au-delà de l'agriculture, qui touche à l'aménagement du territoire, à l'environnement, à notre santé en tant que consommateur, à notre capacité industrielle, puisque quand même le secteur agricole en France est excédentaire dans le commerce extérieur. Mais c'est une crise qui touche essentiellement le domaine de l'élevage, c'est-à-dire les producteurs de lait et de viande. Et je crois que si on veut essayer de décortiquer cette complexité, il faut distinguer 3 composantes. Il y a une composante nationale française, il y a une composante européenne, et puis il y a une composante, la loi du marché. Alors, sur la composante nationale, je crois qu'une des raisons de la crise, c'est que les gouvernements français, depuis la réforme de la PAC en 92, quels qu'ils soient, n'ont jamais vraiment choisi un positionnement clair pour l'agriculture française. En gros, on a le choix entre 2 modèles. Un modèle d'une agriculture très industrialisée, très intense, très robotisée, axée sur l'exportation, dont l'exemple caricatural, c'est les fermes des 1000 vaches, ou un modèle d'agriculture du terroir, très spécialisée, d'une qualité extrême et très demandeuse en main-d'œuvre et en salaire. Nos partenaires ont choisi, c'est-à-dire les Allemands ont choisi de façon très volontaire, le premier modèle, les Espagnols aussi. Les Français n'ont jamais choisi, or ces 2 modèles ne laisse rien entre les deux, c'est-à-dire tout ce qui est exploitation moyenne est appelé à disparaître, ce qui est le cas d'ailleurs en Allemagne et en Espagne. Et donc du coup, la France se retrouve avec énormément d'exploitations moyennes qui ne répondent aux nécessités économiques ni de l'économie industrielle ni de l'économie du terroir. Et du coup, on se retrouve avec des coûts de production extrêmement élevés parce que les exploitations moyennes sont très demandeuses en salaire, en contraintes sociales, vétérinaires, etc., etc. Alors que les grandes fermes de 1000 vaches sont très robotisées, peu de main-d'œuvre et une main-d'œuvre relativement bon marché puisque ça fait appel en général à des travailleurs étrangers. Donc ça, c'est la première raison. On n'a pas choisi. Les syndicats ne veulent pas choisir parce que la FNSEA représente les deux, à la fois la chèvre et le chou, c'est-à-dire les entreprises moyennes et puis l'industrie agroalimentaire. Et donc, on se retrouve avec une majorité d'exploitations moyennes qui sont dans une situation absolument désastreuse. Ça, c'est le premier point. Et le fait que Manuel Valls ait décidé de baisser de 7 points les cotisations sociales prouve bien qu'il sait qu'il y a un problème de coûts de production en France qui défavorise notre agriculture par rapport aux voisins européens. Il y a une deuxième composante qui, elle, est de responsabilité de la Commission européenne et de la PAC, la politique agricole commune. À partir à la fin des années 90, au début des années 2000, l'Europe a fait le choix d'une libéralisation le plus possible de l'agriculture en se fondant sur une analyse qui était assez juste, c'est-à-dire la mondialisation explose, les Chinois, les Indiens ont de plus en plus besoin de produits agricoles, en particulier de lait, et donc on va multiplier la production et voler les marchés aux Néo-Zélandais notamment, grâce à la demande de consommation chinoise. Et donc, décision a été prise en 2008 de supprimer les quotas, en particulier les quotas laitiers, mais avec mise en œuvre de cette politique en 2015, c'est-à-dire seulement l'année dernière. Or, un certain nombre de nos partenaires, dont les Allemands par exemple, ont anticipé cette décision et ont d'ailleurs acheté beaucoup plus de bétail, ont multiplié leur production. Les Français, on a attendu sagement 2015, donc on était déjà en retard sur la production. Mais en plus, il s'est passé deux événements qui n'avaient pas été prévus quand la Commission avait décidé de libéraliser l'agriculture. C'est que la demande chinoise a énormément baissé, moins 22% de sa demande, notamment en poudre de lait, parce qu'elle se finance sur d'autres marchés. La crise avec la Russie a emmené l'embargo de la part des Russes sur les produits agroalimentaires et les Français en souffrent beaucoup. Ce qui fait qu'on est dans une situation catastrophique. On a une surproduction, notamment de lait. On a une baisse des prix phénoménale. Et on a une industrie agroalimentaire qui, comme elle peut se fournir sur n'importe quel marché, fait encore plus baisser les prix. Et donc, ce sont nos éleveurs, nos agriculteurs, notamment les producteurs de lait, qui se retrouvent pratiquement sur la paille. Donc ça, c'est une deuxième raison. Et la dernière raison, c'est ce que j'appelle la composante loi du marché, c'est-à-dire que le prix des produits agricoles aujourd'hui est fixé uniquement par le marché. Ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'au début de la politique agricole commune, quand on sortait de la Seconde Guerre mondiale, l'objectif de la PAC, c'était de soutenir les prix de façon à augmenter la production et amener l'Europe à l'autosuffisance. Ce qui a parfaitement marché, puisque l'Europe est maintenant autosuffisante depuis les années 80. Et donc, à partir de 92, la politique agricole commune a été réformée. On a décidé de supprimer les prix planchers, le soutien au prix, et de les remplacer par une aide personnelle aux revenus. Et du coup, les prix sont totalement libres. Et en France, donc, on a ce face-à-face entre l'agriculteur et le transformateur de l'agriculture, entre le paysan et puis l'industrie agroalimentaire qui fixe les prix selon les lois du marché et en face desquelles nos entreprises moyennes, nos paysans, sont totalement démunis. Ils sont soumis à 1000 contraintes vétérinaires, sanitaires, environnementales, chimiques, etc. etc. Et en face, le prix, les industries agroalimentaires ne sont soumises à aucune contrainte. Donc c'est un peu David contre Goliath.
Thierry Pêche.
Oui, c'est un domaine très compliqué, l'économie de l'agriculture, parce que c'est un domaine où les mécanismes de marché sont surchargés de dispositifs réglementaires très complexes. Nicole vient d'en rappeler un certain nombre, mais on aurait pu développer aussi des choses. Je vais y revenir sur la quantité d'aides publiques déversées sur ce secteur chaque année. Bon, donc c'est un domaine très complexe. Et je crois que il faut le regarder de très loin pour voir apparaître les grands paradoxes. Et le grand paradoxe de ce secteur, c'est que... Non, mais...
On est assez loin.
Bon, alors, le grand paradoxe de ce secteur, c'est qu'au fond, quand on regarde l'évolution des surfaces exploitées c'est assez stable. Quand on regarde l'évolution du nombre des exploitations, c'est en diminution. Et au total, la combinaison de ces deux facteurs devrait conduire à imaginer qu'on a fait des gains de productivité, des gains d'efficacité, que les exploitations sont devenues plus grandes. Et c'est effectivement ce qui s'est passé en tendance. Et néanmoins, quand on regarde la valeur ajoutée produite par ce secteur, elle est en phase d'effondrement. Elle diminue très nettement. Alors comment on s'explique ce genre de phénomène ? Apparemment, c'est paradoxal. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le même temps, les coûts des consommations intermédiaires de l'agriculture ont augmenté, les intrants, l'alimentation du bétail, en particulier dans les secteurs qui sont au cœur de l'attention publique aujourd'hui, qui concernent effectivement l'élevage, comme l'a rappelé Nicole. L'alimentation, c'est un poste de coût important. Mais aussi, autre facteur, une pression à la baisse sur les prix de l'aval de ces filières. Et l'aval de ces filières, c'est les abattoirs, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Et donc ces facteurs de pression-là ont fait que, en dépit d'une économie qui donne tous les signes d'une croissance en efficacité, en productivité, eh bien, on a un effondrement de la valeur ajoutée produite. Alors, quand la conjoncture est pas trop mauvaise, c'est pas trop grave, parce que tout ça est amorti par des quantités d'aides publiques qui sont spectaculaires. Songez qu'on est entre 9 et 10 milliards d'euros par an d'aides publiques déversées dans l'agriculture, qui est un secteur dont l'excédent commercial qu'a rappelé Nicole est à peu près de 10 milliards d'euros. Voilà, c'est à peu près la même chose. Hein. On met 10 milliards de subventions d'un côté et on a 10 milliards d'excédent commercial de l'autre, en moyenne. Hein. Il faudrait dégrossir tout ça, mais c'est à peu près la tendance. En revanche, quand la conjoncture se dégrade, on voit apparaître toutes les difficultés de ce secteur. Et parmi les grandes difficultés de ce secteur, Nicole en a rappelé un certain nombre, il y a bien sûr les stratégies de la distribution qui exercent une pression sur les prix qui est considérable. Il y a la concurrence européenne, et là Nicole a été, je pense, un peu rapide, parce que la concurrence allemande, elle se fait pas simplement sur le choix d'un modèle industriel. Elle se fait sur un intrant économique qui est un coût du travail extrêmement bas sur les métiers peu qualifiés, en raison du fait que l'Allemagne a accepté le travail détaché au prix de marché du marché du travail d'origine du travailleur. C'est en France, quand il y a un travailleur détaché qui vient travailler dans le bâtiment, eh bien, il est payé au SMIC, mais il paye ses cotisations au niveau de son pays d'origine. En Allemagne, ils ont adopté un autre système. D'ailleurs, ils n'avaient pas de SMIC. Quand ils font venir un travailleur roumain ou hongrois dans des abattoirs du Schleswig-Holstein ou d'un autre land allemand, eh bien, ils le payent au prix du marché du travail du marché d'origine. Le travail détaché a un statut tel que vous payez la partie salaire au prix français lorsque vous faites venir un travailleur...
Vous négociez. On paye les cotisations sociales au tarif roumain, si je puis dire. Quant au prix, il est négocié. Alors, évidemment, voilà. ce que vous dites, c'est que les Allemands, les employeurs allemands, sont assez à l'aise vis-à-vis des Roumains pour leur imposer un salaire bas. Mais c'est le marché. On ne paye pas systématiquement au tarif roumain.
Sauf que maintenant, ils ont un SMIC et ils vont devoir payer au SMIC. Donc probablement, ces écarts-là... Bon, mais les cotisations sociales, on les paye au tarif du pays d'origine. Oui, et pas du pays où on travaille. C'est ça que je voulais dire. Bon, donc au total, on a un coût du travail peu qualifié dans l'agriculture en France qui est une fois et demie supérieur à ce qu'il est en Allemagne. C'est considérable, parce que ce sont des métiers qui sont encore, peut-être trop, mais encore assez intensifs en main-d'œuvre quand on regarde en particulier ce qui se passe dans les abattoirs et les métiers de l'écarissage. Autre gros problème, effectivement, et là c'est ce qu'a dit Nicole, c'est un très mauvais positionnement de l'offre française. Songez qu'on est très excédentaire en vente d'animaux vivants. Ça veut dire qu'on a une stratégie de pays sous-développés ou en développement. On vend notre matière première. On ne découpe pas.
Grosso modo, quand on élève des veaux, ils vont être transformés.
Absolument. Comment dire, en Italie. Le grand hub européen de la viande de porc aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Et ça s'est joué ces 15 dernières années. L'Allemagne est devenue le hub européen de la viande de porc. Dernier problème qu'on va voir apparaître, c'est qu'on peut dire toujours on a un excédent commercial agricole de 10 milliards, c'est vrai, mais il est de plus en plus fragile. Parce que quand on regarde dans quel secteur il se forme sur les céréales, les alcools, et les produits laitiers. En revanche, sur la viande, les fruits et légumes, la charcuterie, on s'est vu tailler des croupières, on a perdu des parts de marché. Et tout ça est tout à fait paradoxal parce que l'agriculture est un secteur d'avenir. Je crois qu'il faut le rappeler. On va devoir nourrir 9 milliards d'individus d'ici 2050. Il va falloir augmenter la production agricole mondiale de 60%. On est en train de voir se développer dans l'agriculture une révolution numérique qui va permettre de dispenser de façon beaucoup plus discrète et précise les ressources dont on a besoin. On voit décoller la chimie verte, on voit décoller l'agriculture bio. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce secteur, et ce secteur a beaucoup d'avenir si on n'est pas trop sot.
François Bujon de l'Étang.
Moi, je vais me situer peut-être un peu au premier degré, mais je suis frappé par le caractère très dramatique de cette crise et par l'émotion qu'elle suscite, au fond, partout en France. Elle est dramatique parce que on voit très bien la situation dramatique des éleveurs. C'est une crise, on dit la crise agricole, mais c'est en effet une crise de l'élevage porcin et bovin et des producteurs de lait. Mais on entend parler d'une longue litanie de ruines, de faillites, de suicides. Des chiffres qu'on entend dans ce domaine, je sais pas, j'ai entendu le chiffre de 3000 suicides en cumulé, mais c'est énorme, c'est considérable quand on voit, par exemple, comme les suicides chez Orange avaient ému la population. Monsieur Le Foll, je le cite, a déclaré il y a 2 ou 3 jours qu'il y avait 22 à 25 000 exploitations d'élevage au bord du dépôt de bilan. C'est absolument considérable. Le surendettement, les prix très très bas, les coûts de production qui sont pratiquement inférieurs au prix de marché, la surproduction ruineuse, enfin tout ceci nous interpelle et nous touche. Ça nous touche pour toutes sortes de raisons. D'abord par le caractère très très humain du drame qui se déroule. Ensuite parce que les Français sont très sensibles au monde rural, toujours. Ils ont conscience sans doute des racines rurales de beaucoup de leurs familles. Ils ont de l'affection pour le monde rural. Et les agriculteurs aussi sont souvent, on le voit dans les conversations des uns et des autres, un sujet d'admiration. Dans une France où on a trop souvent le sentiment que la valeur travail est en baisse, chez les agriculteurs, c'est tout à fait l'inverse. Et tout le monde sait que personne ne travaille autant que les agriculteurs. Alors ils sont un sujet d'admiration au fond. Et il s'est établi aussi, alors ça c'est plus curieux depuis longtemps, pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées, l'idée que les agriculteurs ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin d'être aidés par l'État, c'est une habitude, et puis depuis le marché commun, bien entendu, ils ont besoin d'être aidés par Bruxelles, qui en quelque sorte a pris le relais de l'État pour venir en aide à nos agriculteurs. Alors aujourd'hui, on dit qu'ils sont victimes de la conjoncture, les prix mondiaux se sont effondrés, la croissance chinoise s'est ralentie, la politique agricole commune, en effet, à partir de 92, s'est tournée vers l'encouragement à l'exportation. Mais il y a beaucoup plus que la conjoncture, et c'est à cela qu'il faut, s'arrêter. Cette crise, elle est révélatrice, c'est une crise, bien sûr, puisqu'on est dans une phase très très aiguë, mais elle est révélatrice, en réalité, d'une mutation extrêmement profonde du monde et de l'économie agricole. Les chiffres le montrent d'ailleurs en France. L'agriculture a été pendant très très longtemps un des pans majeurs de notre économie. Mais aujourd'hui, la France comptait encore 700 000 exploitations agricoles en l'an 2000, à peu près 515 000 en 2010, 400 000 aujourd'hui. On voit très bien la courbe descendante. Ensuite, on voit aussi que les petites fermes disparaissent les unes après les autres au bénéfice de grandes exploitations et, en effet, d'exploitations de taille moyenne, qui sont particulièrement vulnérables. Alors, la part de l'agriculture française dans le PIB plonge, elle aussi. C'était à l'époque lointaine où j'étais à Londres en train de défendre la politique agricole commune contre les assauts répétés des travaillistes britanniques, dans un précédent épisode du Brexit. C'était 4% la part du PIB pour l'agriculture française. En 2014, 1,7%. Donc, on est en décroissance. Je pourrais multiplier ce genre d'exemples. La part des emplois agricoles, par exemple, dans le marché du travail, 31% en 1955, 8,8% en 81, 3,3% aujourd'hui. Et en termes d'emploi, bien entendu, on est passé des 6 millions d'emplois dans l'agriculture à la fin des années 50 à 850 000 en 2013. Donc, une mutation très très profonde qui prend toutes les manifestations que Thierry et Nicole ont décrites. On a un problème de dépendance, on a un problème de compétitivité dans nos exploitations agricoles et tous se plaignent, au fond, tous les exploitants de la même chose, de l'inflation des normes européennes sur lesquelles s'ajoutent encore des normes nationales, de la chute des prix, de la complexité de la politique agricole commune, de l'endettement. On voit très très bien les mots. Alors, il va falloir choisir. Nicole avait raison de dire qu'il y a deux types d'agriculture en France. Une agriculture presque industrielle axée sur l'agroalimentaire. C'est elle qui a le plus de problèmes de compétitivité et il sera peut-être difficile de guérir ce mal puisqu'il y aura toujours quelqu'un de plus compétitif. Et puis, cette spécialité très française d'une agriculture plus artisanale, tournée vers les produits du terroir, vers l'agriculture bio, vers les labels, qui pour le coup est un succès à l'exportation, est un succès général en France et qui est peut-être une voie d'avenir.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je suis tout à fait en phase avec tout ce que j'ai entendu de votre part jusqu'à présent. Je voudrais insister sur quelque chose qui me paraît très important, c'est le cœur du malaise social des agriculteurs, qui est lié à la politique agricole commune. Initialement, la politique agricole commune a été inventée dans une période de pénurie alimentaire pour combler le déficit, et c'était une exception anti-libérale à une Europe libérale. Et elle a été fondée sur des valeurs un peu chrétiennes, la conception du juste prix, qui est une... Très franchement, c'est comme la valeur travail chez Marx, c'est extrêmement sujet à caution. Le prix, c'est ce que les gens achètent, ce que les gens sont prêts à payer. C'est pas la quantité de travail que vous mettez dedans. Alors, vous avez eu quatre principes, initialement. Vous avez eu des prix élevés, calculés d'ailleurs pour permettre la rentabilité de l'agriculture allemande, et donc permettre à l'agriculture française de faire beaucoup, beaucoup de profits dans les années 50 et 60. On a beaucoup gagné. Deuxièmement, des exportations à vil prix subventionnées par ce qu'on appelait les restitutions. Ensuite, évidemment, des réductions quantitatives. Ça, on oublie toujours que et la jachère et les quotas, c'était les éléments normaux, régulateurs normaux. À partir du moment où le prix la baisse de prix ne modère pas la production, il fallait bien équilibrer par c'est comme l'encadrement du crédit, si vous voulez. Quand c'est pas les taux, c'est l'encadrement du crédit. Là, c'est la même chose. Si c'est pas les prix, c'était la jachère et les quotas laitiers. Et enfin, dernier élément très important en Bretagne, le refus absolu de prise en compte par les agriculteurs de ce qu'on appelle pudiquement en économie le coût des externalités, c'est-à-dire toutes les nuisances apportées à l'agriculture. Ça a très bien marché. Ça correspondait à un milieu qui était assez dominé par un syndicalisme chrétien, ni libéral ni socialiste. Ensuite, on est évidemment arrivé, malgré tout, à une surproduction. Quand on a des prix élevés, pas de régulation, même si on essayait de restreindre quantitativement. Donc, en 92, McSharry a décidé de faire quelque chose, et c'est là qu'est le nœud de l'affaire, a décidé d'appliquer un système qui n'était pas idiot, que j'ai soutenu d'ailleurs au Parlement européen, qui était de dire, on va plus ou moins libéraliser, on va aligner les mécanismes économiques de l'agriculture sur les prix des marchés, mais par compensation, on va verser aux agriculteurs des subventions qui seront complètement déconnectées de la valeur économique et qui seront calculées pour l'essentiel au nombre d'hectares qu'on possède. Ça veut dire quoi pour les agriculteurs? C'était inacceptable. Et en même temps, c'était forcément accepté. Parce que les agriculteurs, il y a deux choses qu'ils n'aiment pas, c'est le libéralisme et le socialisme. Le libéralisme, c'était libéral, le marché, tout ça, c'est plus ou moins pécateux, c'est pas bien, c'est instable, c'est pas du tout Saint Thomas, c'est pas du tout le juste prix, donc ils aimaient pas. Et l'assistanat, en contrepartie, par les primes à l'hectare, ils n'aimaient pas, ils voulaient être payés de leur travail avec un juste prix, ce qui était une fiction économique. Le juste prix, c'était le prix qui leur permettait d'être rémunéré, mais ça n'avait pas de sens économique. Et pour faire bonne mesure, on leur a dit, et en plus, une partie des aides vont vous être données en vous transformant en jardinier de la nature, vous allez soigner l'environnement. Alors, ces braves catholiques, producteurs, thomistes, etc., des syndicats agricoles, se sont retrouvés obligés d'être libéraux, d'être assistés et d'être fonctionnaires, en quelque sorte, avec des tas de trucs bureaucratiques. Donc, ils ont détesté. Et en même temps, ça leur donnait beaucoup d'argent. Donc, ils ont accepté. Ils ont accepté, ils se sont sentis méprisés, aliénés, presque prostitutionnalisés, j'oserais dire. Ils ont détesté ce système et en même temps, ils ont quand même pris l'oseille parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et depuis le milieu des années 90, il y a une véritable sécession qui est évidemment aggravée par la marginalisation politique totale des agriculteurs du fait de leur petit nombre, du fait qu'ils comptent, comme vous l'avez dit, beaucoup moins dans le PIB, etc., etc. Donc, ils sont en plus marginalisés. Et alors, troisième phase, la phase à laquelle nous sommes, ce libéralisme ne fonctionne pas, pour les raisons que vous avez dites. L'instabilité générale des prix est évidente et elle est aggravée. On a là deux événements importants, l'embargo sur les produits russes, l'embargo sur les exportations en Russie. Donc ça, c'est, alors les Polonais d'ailleurs s'en plaignent, ils sont dans une contradiction complète là-dessus. Et deuxièmement, le tassement de la demande laitière chinoise. Donc ça fait que les prix s'effondrent avec ce que l'effet King, comme disent les économistes, ça a évidemment des effets considérables sur les prix. Deuxièmement, vous avez la concurrence intérieure, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit notamment par Nicole, sur la confrontation des deux modèles. Et le système breton, le modèle, l'usine à vaches, moi j'ai visité, quand j'étais au Parlement européen, j'ai visité un véritable camp de concentration pour vaches. Il y avait 1500 vaches, des barbelés partout, etc. C'était géré de façon... Alors, les Français regardaient ça. Nous, on avait inventé quand même ce qu'on appelait l'exploitation à deux UTH. C'était le grand truc. UTH, ça veut dire, parce que les agriculteurs n'ont pas leur pareil, à part les militaires, pour utiliser les sigles. UTH, ça veut dire unité de travail humain. Alors c'était l'unité de l'exploitation à deux UTH qui produisait des UGB, des unités de gros bétail. Bon, et donc on avait cette espèce de les Français regardaient ça, saisis. Or en même temps, l'exploitation à deux UTH, ça va pas du tout, mais ça ne serait valable que pour une agriculture en dentelle. C'est-à-dire, on fait des produits bio, des produits fins, des produits transformés, etc. Or, où il y a peu de valeur ajoutée. Or là, le modèle breton, c'est de faire du lait et du porc. C'est-à-dire des trucs basiques, un peu idiots, etc. Donc, on est dans une situation qui est vraiment terrifiante. Et alors, la solution, alors je finis là-dessus, la solution, c'est évidemment, personne ne discute qu'il faut, comme disent aussi les économistes, solvabiliser une bonne partie de tout ça par de l'argent public. Mais comment faire? Alors, on a plusieurs systèmes. On a privilégié l'aide à l'hectare. L'aide à l'hectare, ça a deux effets pervers. D'abord, ça subventionne la reine d'Angleterre, qui n'est pas la plus pauvre de toutes les exploitantes agricoles de l'Union européenne.
Et le prince de Monaco.
Et le prince de Monaco, son fidèle acolyte. Donc, on est dans... Alors que, effectivement, c'est totalement injuste. Plus vous avez d'hectares, plus vous recevez d'argent. Donc, il y a vraiment un mécontentement social très justifié. La FNSEA a toujours protégé ce système, parce qu'elle était quand même assez largement tenue par des gens qui avaient plutôt de grandes surfaces que de petites. Bon. Deuxième effet pervers, ça augmente le prix des terres. Parce que ça devient une rente. C'est comme le loyer de 48. Ça devient une rente. Les gens... Donc, ça veut dire qu'en réalité, la valeur de la terre, on lui agrège ce droit à recevoir des subventions. Du coup, ça freine l'installation des jeunes. Donc, c'est vraiment pervers. Alors, on dit, mais il ne faut pas faire ça. Deuxièmement, il y a une autre idée, qui est l'idée américaine, qui est pas mal, qui est de dire, on va agir sur les prix. On va faire des subventions, on va subventionner quand les prix, pour avoir une politique contracyclique. Quand les prix baissent, on donne de l'argent, quand les déconnectés, évidemment, des productions. Quand les prix augmentent, on arrête les subventions. Ça, c'est possible, mais enfin, ça ne règle pas le problème que structurellement, on a une situation où les Français sont pas en équilibre par rapport aux Allemands et aux autres. Troisièmement, et j'ai presque terminé, on fait le contrat d'entretien. Alors là, on reprend le développement rural, l'écologie, etc. Ça, les agriculteurs n'aiment pas, mais il faut qu'ils s'y fassent. C'est une source de revenus, ils contribuent effectivement à l'entretien du jardin français. Et quatrièmement, c'est ce que fait en fait le FOL avec les moyens du bord, et je crois qu'il est assez courageux. Je trouve qu'il se débrouille pas si mal dans cette situation difficile. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, je trouve que c'est un type sérieux. C'est ce qu'il fait, c'est des aides aux revenus. Déconnecté, on dit on aide les gens, etc. Mais tout ça n'est pas satisfaisant et on est dans une crise, comme vous l'avez dit, extrêmement profonde. J'ai terminé, Philippe.
Thierry Pêche.
Oui, non, un mot sur est-ce qu'il faut choisir entre l'industrie de masse et le terroir. Je pense qu'il y a tout de même un troisième terme à l'équation, c'est l'industrie de masse de qualité. La France peut, compte tenu de ses réglementations, elle peut faire mieux en qualité que beaucoup d'autres. Et c'est le deuxième point que je voulais ajouter. On a très peu parlé d'environnement. Les externalités négatives dont parlait Jean-Louis à l'instant de l'agriculture sur l'environnement sont tout à fait considérables, en particulier lorsqu'on a affaire à une agriculture productiviste. Or, on observe que les quelques aides publiques qui sont conditionnées à des critères environnementaux, de qualité bio du produit, etc., sont assez efficaces. Il faudrait développer ça. Vous avez seulement, je crois, 400 millions d'euros. C'est 4% des aides qui sont effectivement fléchés de cette façon-là. Il faut développer ça.
François Bujon d'Étampes.
Sur l'idée qu'il faut mettre l'accent sur la qualité, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Thierry. Et il y a un exemple qui montre le succès dans ce domaine, c'est la production viticole. La France a pendant très longtemps eu une production viticole pléthorique et de qualité extraordinairement médiocre. C'est complètement terminé. Les viticulteurs ont compris que leur survie était en cause. On a abandonné la production de vin ordinaire pour ne plus faire, même au Languedoc et dans d'autres régions qui étaient considérées comme pas du tout du niveau des grandes productions, du bon, du très bon, du cher ou du très cher, et avec un très grand succès, et notamment un très grand succès à l'exportation.
Je vous remercie. Nous allons maintenant nous intéresser aux primaires américaines après le Super Tuesday, puisque mardi dernier, ces primaires ont franchi une étape clé dans le processus de désignation des candidats. 11 États ont désigné un quart des délégués républicains et un cinquième des démocrates. Les deux favoris, Donald Trump pour les premiers et Hillary Clinton pour les seconds, ont remporté 7 États chacun. Le sénateur ultra-conservateur Ted Cruz est arrivé en tête dans 3 États, au Texas, en Oklahoma et en Alaska, notamment grâce au vote évangélique. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, a remporté le Minnesota, sa première victoire depuis le début des primaires. Le fait de ne pas avoir atteint le seuil des 20% dans plusieurs États, notamment en Alabama et au Texas, fragilise celui qui se considère comme le mieux placé pour réunir les républicains face à Donald Trump. Ben Carson, qui comme John Kasich n'a remporté aucun État, a préparé son retrait en annonçant qu'il ne participerait pas au 11e débat républicain organisé jeudi dernier. Lors de ce débat, les trois, Marco Rubio, Ted Cruz et John Kasich, ont ciblé leurs attaques contre Donald Trump, bien qu'ils se soient engagés par ailleurs à voter pour lui s'il gagnait les primaires. Dans le camp démocrate, Bernie Sanders a remporté 4 États, le sien, le Vermont, puis le Colorado, le Minnesota et l'Oklahoma. Hillary Clinton a dominé dans les États du Sud et remporté l'Arkansas, l'Alabama, la Géorgie, le Tennessee, le Texas et la Virginie, États dans lesquels l'électorat afro-américain lui est très fidèle. Selon les sondages de sortie des urnes, 80% des Noirs ont voté pour elle dans ces États, ainsi que 2/3 des démocrates hispaniques au Texas. Bernie Sanders a appelé ses partisans à rester mobilisés, malgré l'avance de sa rivale, qui est en outre soutenue par une majorité de super-délégués, c'est-à-dire de grands électeurs du parti désignés sans vote. Dans l'attente des résultats définitifs des primaires des deux camps qui ont eu lieu samedi en Louisiane et au Kansas, d'autres primaires ont lieu aujourd'hui dans l'État du Maine pour les démocrates et à Porto Rico pour les républicains. 5 États majeurs sont appelés à voter le 15 mars prochain. Le résultat sera d'un grand poids en Floride et en Ohio, dans lesquels le gagnant remporte tous les délégués. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Alors, Philippe, vous avez très bien résumé les résultats de ce Super Tuesday, qui est une institution relativement récente. D'ailleurs, je le signale au passage dans l'histoire américaine. C'est dans les années 80 qu'a émergé cette idée de concentrer une douzaine ou plus de primaires sur la même journée. Et c'était à la fois le Parti républicain et le Parti démocrate qui étaient en faveur de cette formule afin d'éliminer très tôt dans la course des candidats un peu marginaux ou un peu extrêmes. Bon, vous avez dit ce qu'étaient les résultats. Donc, la première chose à dire, c'est qu'on y voit désormais plus clair. Il ne faut pas oublier que du côté républicain, par exemple, il y avait 17 candidats sur la ligne de départ. Il n'en reste plus que 5 en piste. Et du côté démocrate, il y a eu la surprise et la sensation Bernie Sanders. Mais désormais, tout ceci se décante. On voit Trump et Hillary Clinton creuser l'écart et apparaître de plus en plus comme les deux nominés, si j'ose dire, les plus vraisemblables pour les élections de novembre. Alors, ceci étant posé, l'affaire est loin d'être définitivement pliée. Et trop de gens ont tendance à considérer qu'elle l'est. Il reste 35 États, vous venez de donner la liste de ceux qui votent très très prochainement. La date du 15 mars, d'ailleurs, sera tout à fait cruciale, parce que le 15 mars, deux de ce qu'on appelle les swing states les plus connus, ceux qui basculent, l'Ohio et la Floride, sont en jeu. Mais il reste encore des candidats en piste, et au fond, ce Super Tuesday n'a pas éliminé les candidats qui étaient... Bernie Sanders est toujours là, il n'est pas éliminé, il est à la traîne, mais il est toujours là. Et du côté républicain, ils sont encore 5, et ce qui entraîne une dispersion des voix des électeurs républicains sur un trop grand nombre de candidats. Alors la situation est différente chez les démocrates et chez les républicains. Chez les démocrates, elle est beaucoup plus claire. Hillary Clinton apparaît très difficilement battable. Bien sûr, il peut toujours lui arriver quelque chose, elle peut exploser en vol, on peut trouver un scandale, Dieu seul sait. Mais normalement, elle n'est guère battable. Elle a derrière elle, on l'a vu dans les élections du Super Tuesday, les minorités, notamment les Noirs, toujours fidèles à la famille Clinton, les Hispaniques aussi, et puis bien entendu le vote féminin, et compte tenu du fait que M. Trump insulte les femmes à peu près chaque fois qu'il prend la parole, ce n'est pas particulièrement étonnant. Donc il faudrait un grave accident pour qu'elle ne gagne pas la nomination comme candidate républicaine en décembre. Bernie Sanders est toujours là, il a beaucoup de dollars parce que sa campagne de levée de fonds est très habilement menée, mais au fond, il mène un combat d'arrière-garde et il devrait normalement s'éteindre, si j'ose dire, dans les semaines qui viennent. Chez les Républicains, la situation est complètement différente. Trump reste en réalité encore vulnérable, bien qu'il fasse à chaque fois un très gros score. L'establishment du Parti Républicain est horrifié par ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire par le fait que quelqu'un, j'y reviendrai dans un instant, qui n'est pas un vrai républicain, soit en train de monopoliser les électeurs. Mais il est vulnérable parce que l'establishment n'a pas perdu l'espoir de réussir à se rallier autour d'un des candidats qui reste et de forcer par conséquent une convention. La convention républicaine aura lieu à Cleveland fin juillet, qui serait une grosse négociation, ce qu'on appelle une brokered convention, dans laquelle on désignerait le titulaire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les deux candidats auxquels elle pense pour cela sont en réalité deux candidats d'extrême ultra-droite archi-conservatrice. Ted Cruz est un candidat des Tea Parties et Marco Rubio, que Dieu sait pourquoi on présente comme le gendre parfait et comme quelqu'un qui pourrait très bien rallier l'establishment, est pratiquement tout aussi à droite que lui. C'est quelqu'un, pour donner un exemple, qui s'est opposé à l'avortement même dans les cas d'après-viol, n'est-ce pas ? Donc, c'est quelqu'un d'aussi à droite que Ted Cruz. Alors, ça pose un problème évidemment énorme pour l'establishment. Que peut-on faire ? Et finalement, M. Kasich, le gouverneur de l'Ohio, qui va d'ailleurs jouer sa survie sur les élections de l'Ohio le 15 mars, se maintient en piste parce qu'il se dit qu'il gagne, il se dit que s'il gagne l'Ohio et le Michigan, il pourra peut-être séduire une partie de l'establishment dans l'ultime tentative anti-Trump. Alors, je dirais ceci, la campagne a été très insolite cette année et elle a mis en évidence plusieurs phénomènes tout à fait inédits. Elle est insolite d'abord parce qu'il y a eu de très nombreux candidats anti-establishment et même un nombre inusité de candidats venus de ce que nous appelons ici la société civile. Qu'il s'agisse du neurologue M. Ben Carson, qu'il s'agisse de Carly Fiorina, qu'il s'agisse de Trump, ce ne sont pas des politiciens professionnels. Et surtout, cette vogue dont ils ont bénéficié montre la force de la colère contre l'establishment, contre Washington, contre le Congrès au sein de l'électorat américain. C'est une première chose. La seconde, c'est que il y a une très profonde crise au sein du Parti républicain qui est littéralement menacé de désagrégation. Le phénomène Trump, j'y reviens, lui pose un énorme problème parce que Trump, au fond, n'est pas un vrai républicain. Il ne défend pas l'idéologie républicaine traditionnelle. Il est, par exemple, il n'est pas du tout libre-échangiste, ce que d'habitude sont les républicains. Il veut taxer les produits importés du Mexique, en faisant payer les Mexicains, taxer les produits importés de Chine. Bon, il n'est pas non plus en faveur de l'État faible, qui est la tradition chez les républicains. Il est plutôt, au contraire, interventionniste, étatiste, etc. Et donc, c'est plutôt, en réalité, un national-populiste, disons, « Make America Great Again », c'est ça son slogan principal, qu'un véritable républicain. Alors, l'idée de rallier les républicains autour d'extrémistes de droite accentue l'équation difficile dans laquelle se trouve le Parti républicain depuis quelques années. Si vraiment la seule antidote c'est Cruz ou Rubio, c'est la démonstration ultime que le Parti républicain est complètement l'otage des Tea Parties et de la droite conservatrice et que tant qu'il l'est, il aura du mal à regagner la Maison-Blanche.
Nicole Nisotto.
Oui. Alors, moi, je n'hésite pas pour commencer à faire une remarque un peu catastrophiste qui m'est inspirée par les séquences électorales dans les quatre grands pays occidentaux. Tous les 6 mois, nous allons avoir une élection. Donc, en juin de cette année, l'éventuel Brexit britannique. En novembre de cette année, les élections américaines. En mai prochain, les élections françaises. Et à l'automne 2017, les élections allemandes. Et je laisse les auditeurs imaginer la catastrophe que pourrait être un monde où la Grande-Bretagne sort de l'Union, M. Trump est élu président des États-Unis, Marine Le Pen arrive au pouvoir et Mme Merkel est évincée. Je dis cela parce que c'est quand même tout à fait étonnant que dans l'ensemble de ces échéances électorales, on ait des scénario du pire qui soit possible. Bon, voilà, c'est mon cauchemar que je partage avec tout le monde.
Nicole, l'éviction de Mme Merkel ne semble pas la tragédie la plus cardinale de vos quatre exemples.
Non, mais dans l'ensemble, elle est le seul élément raisonnable qui aurait pu...
encore président des États-Unis.
Enfin, Nicole, Monsieur Elon Musk vous prépare la possibilité d'aller vous installer sur Mars dans un siècle et demi.
Non, mais la Bretagne me suffira. Mais bon, plus sérieusement...
Avec le bonnet rouge, il faut...
Plus sérieusement, ce qui me frappe, c'est que dans cette élection, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit François, mais ce qui me frappe, c'est que on n'est pas dans un choix entre les démocrates et les républicains, on est dans un choix entre les modérés et les extrêmes. Quelque chose d'ailleurs qui ressemble un peu à la situation politique en France, puisque vous avez d'un côté le camp des démocrates, y compris Bernie Sanders, qui est sympathique, mais enfin qui n'est pas non plus un excité de la planète, le camp des démocrates qui n'est pas du tout enthousiasmant, mais qui est un espèce de réalisme bontain, aussi bien en politique intérieure qu'en politique extérieure, et de l'autre côté, du côté des républicains, le camp de l'extrémisme, quels que soient les candidats. Soit Donald Trump, qui représente la démagogie la plus vulgaire et la plus extrême, il est contre tout, contre les élites, contre la Chine, contre les musulmans, contre les immigrés, bref, contre tout ce qui n'est pas blanc, américain, individualiste et anti-système.
Et
de l'autre côté, vous avez l'idéologie d'extrême droite la plus pure. Et là, je suis complètement d'accord avec François. Mario Rubio ou Ted Cruz, c'est même combat. Ce sont des gens d'extrême droite qui sont contre l'avortement, contre les femmes, contre l'immigration, pour une interprétation stricte de la Constitution, etc., etc. Et donc ça me paraît très inquiétant que l'élection américaine, aujourd'hui, le clivage n'est pas droite-gauche. Il est entre la modération politique et l'extrémisme politique. Et troisième point, sur Trump, Donald Trump. Moi, je serais assez prudente. Je crois que ce monsieur n'est ni un clown, ni non éligible. Et je pense que le parti républicain comprendra que l'avantage d'un démagogue, fût-il le plus vulgaire, le plus extrême, c'est que c'est flexible. Alors qu'un idéologue, ça ne l'est pas. Et donc Donald Trump, à mon avis, s'il arrive à gagner l'investiture, je crois qu'il a une grande force. Sa force, c'est qu'il fédère les colères américaines et il est le seul à pouvoir le faire.
Thierry Pêche.
Alors en effet, les jeux sont pas faits, mais on voit se dessiner des tendances maintenant assez palpables et assez robustes. Et je crois que ce qui différencie vraiment le camp démocrate du camp républicain, c'est que le camp démocrate est capable de faire un choix de modération, en effet. Il est animé par le désir de la victoire et cette victoire passe par la désignation d'un candidat capable de rallier sur son nom la plus grande partie des suffrages du peuple américain et donc d'incarner une ligne relativement tempérée. Et puis du côté républicain, cette pente savonneuse de la radicalisation idéologique qui maintenant depuis bien des années travaille le parti et le porte au bord de l'abîme parce que au fond la défaite du candidat républicain en novembre, si elle a lieu, c'est une défaite non seulement pour la présidence, mais ça veut dire qu'ils perdent la majorité à la Cour suprême pour un certain nombre d'années. Ça a toute une série de conséquences institutionnelles qui vont mettre les républicains dans un corner pour longtemps, probablement. Et donc, comment on s'explique ça? C'est pas les procédures électorales qui ont produit de la modération à gauche et de la radicalisation à droite. C'est pas les primaires, en l'occurrence. D'où vient cette polarisation extrême du discours de droite aux États-Unis? Moi, je ne suis pas américanologue ou américaniste. J'aimerais bien que des spécialistes nous éclairent sur ce point. Parce que je vois pas ce qui peut arrêter Trump. Je me souviens de Jean-Louis disant il y a des candidats modérés à droite qui peuvent tirer leur épingle du jeu au début des premières conventions. Et non, en réalité, dès le départ, quand on faisait l'addition des candidats extrémistes, avec des tempéraments et des natures un peu différentes, mais Trump, Ted Cruz, Rubio, etc., on avait une très grande majorité des suffrages exprimés qui se portaient sur des Kazakhs extrêmement radicales. Bon. Aujourd'hui, je vois pas ce qui peut arrêter Trump, et surtout pas, François, les expressions d'indignation de l'establishment républicain, qui sont une publicité vivante pour Trump. Plus ces gens-là diront, on peut peut-être s'arranger à la fin pour faire un truc, pour mettre quelqu'un qui est capable de gagner.
Direct, hein.
Oui, d'accord. Mais je veux dire, s'ils font ça, je pense qu'ils rendent le pire des services aux candidats qu'ils auront désignés de cette façon, d'autant que Trump pourrait se maintenir.
Mais s'ils n'y parviennent pas, un grand nombre d'entre eux risquent de se porter sur Hillary Clinton ou de ne pas voter pour le candidat prétendument républicain.
Effectivement, le chemin de la victoire d'Hillary Clinton est assez clairement pavé par ces facteurs.
Tout à fait.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que tout ça est relativement clair du côté démocrate. D'ailleurs, ce sont en réalité deux modérés, parce que Sanders fait une campagne intelligente et d'ailleurs assez modérée, pas du tout.
Je suis très heureux de vous l'entendre. Vous l'avez décrit autrefois comme un Corbyn américain.
Ah non, par l'âge. Non, je disais qu'il y avait des candidats. Non, mais c'est vrai que c'est un candidat. C'est vrai que quelqu'un qui se présente comme socialiste aux États-Unis, c'est quand même inattendu. Enfin, c'était la révolution mentale est aussi grande que de se présenter comme Corbyn par rapport à l'héritage du blairisme. Mais j'ai beaucoup plus d'admiration pour Sanders que pour Corbyn. Si c'est ça que vous voulez me faire dire, je le dis volontiers.
Je veux rien vous faire dire.
Mais
je vous écoute.
Donc, je crois que c'est je crois que c'est assez clair maintenant sur le plan démocrate. Madame Clinton a deux choses pour elle que n'ont pas les autres, c'est l'électorat féminin et l'électorat noir. Bon, je crois que ça suffit à assurer sa victoire au sein du Parti démocrate. Je ne dis pas que ça suffise à assurer sa victoire à l'élection présidentielle. Deuxièmement, sur le plan de Trump, je crois effectivement que Trump a un grand avantage. Je connais pas du tout les subtilités du gouverneur de l'Ohio. Donc ça, je laisse notre grand spécialiste incontestable, François Bujon de l'Étang, nous dire exactement ce qu'il en est. Ce qui me paraît, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que ce qui paraît frappant, c'est la polarisation très profonde entre le vote Trump, entre le discours Trump et le discours traditionnel des républicains. Le discours traditionnel des républicains est moraliste, moralisateur. Le discours de Trump est complètement païen et déjanté, à vrai dire, sur tous les plans, les femmes, les trucs. Bon, c'est un discours. Le discours est libéral et libre-échangiste. Maintenant, parce que sous du temps du président Lincoln, c'était quand même autre chose. Et le discours de Trump est protectionniste. Le discours de Trump est interventionniste. Les autres sont pour un État extrêmement faible. Et traditionnellement, sauf du temps de Bush qui a fait cette mélange des néocons, le discours républicain est prudent sur le plan de la politique extérieure. Il est pas trop il est un peu isolationniste. Là, Trump, on a l'impression qu'il veut tout casser partout. Donc ça fait quand même quelque chose de très particulier. Et c'est pourquoi, et c'est là-dessus que je conclurai, moi je ne sais pas ce qui va se passer. Je crois effectivement, comme vous, que à 5 contre 1, Hillary Clinton devrait gagner. Mais malgré tout, j'ai un doute, parce que c'est pas Barry Goldwater, Trump. Barry Goldwater, c'était vraiment un extrémiste face à Johnson. Il a été écrasé parce qu'il était logé dans un cadre précis. Monsieur Trump n'est logé nulle part. Et c'est le choix d'un populiste qui manifestement séduit contre une personne de l'establishment qui manifestement ne séduit pas. Olivier Duhamel disait jeudi, et je crois qu'il avait raison, qu'on ne pouvait pas comprendre Trump si on ne comprenait pas que les Américains avaient un dictionnaire. Et que les mots, les attaques contre Trump étaient reconverties par le peuple américain en autre chose. Quand les Américains, les adversaires disent « il est machiste », le peuple américain comprend « il est viril ». Quand ils disent « il est xénophobe », au moins l'Amérique sera défendue. Quand ils disent « il est vulgaire », au moins ils parlent comme le peuple et pas bon. Il y a tout un ensemble de choses et donc ce personnage, probablement il ne réussira pas, mais il y a quand même un facteur d'indétermination qui est assez préoccupant, d'autant plus que l'establishment est divisé et à mon avis aura beaucoup de mal à sortir quelqu'un pour se faire battre en plus de conforme à son propre programme compte tenu des divisions Cruz, Rubio et les autres.
François Bujon de l'Étang.
C'est vrai et en même temps en mentionnant le nom de Barry Goldwater vous me donnez l'occasion de répondre un petit peu à Thierry sur les origines de cette radicalisation. Je ne vais pas entrer dans un cours d'histoire là-dessus, mais disons qu'elle remonte aux années 60 et le fait que Barry Goldwater justement ait été le candidat d'extrême droite qui s'est présenté contre Johnson en 1964 et qui a été écrasé, battu à plate couture, est un précédent que l'on invoque souvent à propos de Trump. Si Trump est élu, il va finir comme Barry Goldwater. Trump est désigné, enfin élu par les Républicains, oui, désigné. Je suis de votre avis, Trump n'est pas de la même espèce, c'est autre chose, parce que ce national populaire liste est vraiment autre chose. Mais la radicalisation, elle remonte aux années 60, en réalité, au programme de grande société du président Johnson. Et à cette époque, beaucoup des conservateurs du Parti démocrate ont quitté le Parti démocrate, tellement ils étaient opposés à cette politique, pour rejoindre le Parti républicain. Et c'est là que le Parti républicain a reçu énormément d'extrémistes qui sont devenus des républicains de fraîche date et qui ont traîné ce parti de plus en plus vers la radicalisation. Ça fait donc 50 ans à peu près, que ce mouvement est en jeu. Et il s'est évidemment beaucoup...
Les droits civiques qui ont conduit.
Oui, les droits civiques, le projet de grande société de Johnson. Et ça s'est beaucoup aggravé récemment, avec la personnalité du président Obama, qui évidemment a suscité toutes sortes de réactions, disons, subliminalement racistes. Et il y a chez les républicains aujourd'hui des gens qui haïssent Obama de façon telle qu'ils en perdent tout bon sens et tout sens politique. L'histoire de l'élection du juge à la Cour suprême en est évidemment un bel exemple.
Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvre d'abord en rappelant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la semaine prochaine, nous sommes en public et en direct à la Maison de la Radio et que tous ceux et celles qui veulent venir sont les bienvenus et peuvent s'inscrire sur le site Maison de la Radio sans point, sans aucune séparation, .fr. Et puis je voudrais attirer l'attention, faire l'éloge d'un film qui s'appelle Merci Patron, film dont le héros involontaire est Monsieur Bernard Arnault. Bernard Arnault a bâti sa fortune sur le dépeçage d'un empire textile que l'État l'a aidé à acquérir en échange de l'engagement d'en sauvegarder les emplois. Cet engagement n'a absolument pas été tenu. Le groupe Boussac a été dépecé, dégraissé, revendu par appartement, et avec une mise initiale de 40 millions, M. Bernard Arnault s'est retrouvé 3 ans plus tard possesseur d'un magot de 8 milliards, qu'il a depuis fait considérablement fructifier. La Commission européenne l'a sans doute condamné à rembourser une partie des aides qu'il avait encaissées, 340 millions, mais qu'est-ce que c'est que 340 millions quand vous avez gagné 8 milliards ? Par la dureté de sa politique de licenciement, M. Bernard Arnault a puissamment contribué à ancrer dans l'opinion l'idée que la mondialisation ne peut s'accommoder que de brutalité, de cynisme et d'inhumanité. Et voilà que depuis la rédaction picarde d'un magazine plus ou moins babouviste et qui se proclame fâché avec presque tout le monde, voilà que depuis Fakir, c'est le nom de ce magazine, un loustique, un luron, un turlupin, imagine un stratagème rusé et espiègle pour venir en aide à une famille victime de la brutalité de M. Bernard Arnault, tout en roulant M. Bernard Arnault dans la farine. Cela donne un film épatant et tonique, Merci Patron, dont l'accueil est tel que le nombre de salles qu'il projette à Paris a doublé en une semaine. Les diableries de ce Robin des Bois revisité par Guignol secouent le public d'un bon rire, enfantin et vengeur, dans lequel Gracchus Babeuf, autre Picard, reconnaîtrait le meilleur de cette insurrection pacifique qu'il appelait de ses voeux. Nicole Niesoto.
Alors moi j'ai lu cette semaine le petit livre de Madame Taubira, Murmure à la jeunesse, et je voudrais le recommander à la jeunesse. C'est un livre absolument formidable, je n'ai pas de jugement sur Madame Taubira en tant que ministre, mais en tant qu'écrivain, c'est un vrai écrivain. Elle a une culture, notamment une culture poétique et littéraire exceptionnelle, elle écrit remarquablement bien, et c'est simplement une incitation à la jeunesse à ne jamais se résigner, à se révolter. Alors, je ne voudrais pas que mes camarades haussent le sourcil trop haut, mais vraiment, je le recommande à la jeunesse. Je ne sais pas si j'ai une seconde pour citer une phrase de Victor Hugo magnifique. Tentez. Braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise.
Thierry Pêche.
Moi, je vais vous recommander le dernier dossier de mon ancien journal Alternative Économique, qui est consacré à la musique. François, vous qui êtes mélomane, vous apprécierez. La musique peut-elle être gratuite ? C'est une très bonne mise au point de l'économie de la musique. On y découvre que les majors continuent à jouer un rôle. Il y a une émotion dans le studio parce que Jean-Louis et Philippe regrettent que je n'ai pas signalé qu'ils étaient aussi mélomanes, probablement. Bon, alors voilà. Donc, pour tous les mélomanes autour de cette table, Nicole, vous êtes certainement concernée aussi.
Nous ne regrettons rien, mais ça se paiera.
Très bien, très bien. Bon, alors, il se trouve que François donne régulièrement d'excellents conseils de musique. C'est pour ça que je me tournais vers lui. Alors,
avocat,
donc, lisez.
Et le mien, avocat, au début.
Lisez donc le dossier d'Alternative Économique. La musique peut-elle être gratuite ? Vous y découvrirez que, bien sûr, le concert est en train de revenir une des sources de revenus principales de la musique. Les majors arrivent à tirer à nouveau leur épingle du jeu. Enfin, c'est très intéressant et très révélateur des tendances récentes.
Merci beaucoup, cher mélomane. Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi, je me contenterai de vous dire la brève que je ferai la semaine prochaine. Ça sera, je vous dirai, cher ami, lettre de Madame de Rémusat à son mari. Formidable ce que j'en ai lu, mais j'en ai pas lu assez pour, même avec un minimum de malhonnêteté qui est en général admis, vous en donner un compte rendu.
François Bujon de l'Étang.
Moi, je voudrais saluer l'élection d'Andrei Makine à l'Académie française. Dieu sait que les immortels ne font pas toujours preuve de beaucoup de discernement, mais cette fois-ci, par contre, ils en ont fait preuve. Andrei Makine, il y a trois raisons de s'en réjouir, me semble-t-il. La première, c'est qu'Andrei Makine est un excellent écrivain, qui écrit un français très distingué, qui a été couronné par le prix Goncourt, le prix Médicis pour le Testament français, mais qui a écrit bien d'autres bons livres. C'est donc en soi un bon choix. Mais la seconde raison de s'en réjouir, c'est qu'il y a une grande tradition des écrivains étrangers de langue française, pour nous. François Cheng, Julien Green, Georges Semprin, Hector Bianciotti et même Samuel Beckett.
Denis Laferrière.
Oui, tous n'ont pas été à l'Académie française, mais c'est une tradition magnifiquement illustrée par Makine. Et la troisième raison de s'en réjouir, c'est la dimension russe, puisque s'il y a un pays qui a aimé la langue française et qui l'a défendue pendant des décennies et des décennies, c'est bien la Russie, où les élites étaient parfois, avant bien entendu la révolution de 1917, éduquées en français et parlaient parfois le français avant de parler l'anglais. Tolstoï, par exemple, tout le monde le sait, a écrit le début de la guerre et la paix en français, avant de le traduire lui-même en russe. Et donc le fait qu'un écrivain russe de langue française soit aujourd'hui distingué de la sorte, me paraît une espèce de façon de s'acquitter d'une dette de reconnaissance pour l'amour des Russes envers la langue française.
Vous avez un écho de la manière dont cette élection a été accueillie en Russie, si elle a été accueillie?
Non, pas encore. Je suis sûr qu'elle sera saluée, encore que Makine est un Russe qui a émigré et que les Russes n'aiment pas les Russes qui ont émigré. Pas de salut en dehors de la mère patrie.
Nicole Nisato, vous êtes décidément toqué de Madame Taubira.
Je suis
et plutôt que Victor Hugo, parce que Victor Hugo, ça fait un certain temps que nous sommes plusieurs à penser.
Non, j'ai oublié d'abord de signaler l'éditeur, hein, c'est chez Philippe Rey, ce petit livre. Et je vais vous faire une deux secondes citation de Madame Taubira, cette fois elle-même. « C'est une faveur qui remonte du fond des âges et porte la mémoire du monde. Une génération peut éclairer le présent et offrir à la suivante de choisir l'épaisseur et les couleurs de son propre présent. » Par temps troubles et incertains, soumis à des bouleversements ardus à lire, cette faveur se fait devoir.
Je vous remercie. Vous avez rendez-vous avec Alain Crugère pour On ne parle pas la bouche pleine. Il reçoit une écrivain, poète et traductrice, Ryoko Sekiguchi, avec qui elle va parler du bon ou au bon qui est célébré chaque année au Japon, qui est une fête des morts joyeuse où les morts, les ancêtres, reviennent sur Terre, ce qui est l'occasion de réunir les familles. Mais auparavant, puisque, comme vous le savez, France Culture consacre des rendez-vous réguliers à la poésie, auparavant, vous avez rendez-vous avec Jacques Bonnafé, précisément, pour cet hommage à la poésie. Quant à nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, sur cette même chaîne, éventuellement en direct au studio 106 de la Maison de la Radio.